Campus Lille, il est 18h.
Heureusement qu'en France, on ne se drogue pas. Heureusement qu'en France, on ne se drogue pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Aujourd'hui, nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a même François, je suis accompagné de Reynald. Bonjour. Ah oui, Reynald qui n'a pas de micro. Vas-y, réessaye.
Bonjour à tous.
Ah, ça va, c'est mieux. Ouais. Non, moi je trouvais ça mieux avant.
Ouais. C'est bizarre. Ah ouais, bizarre, tout le monde
c'est
le dit.
Bizarre.
Ouais, c'est bizarre.
Et de Dominique.
Salut.
Aujourd'hui, sur Radio Campus 106.6, et comme toutes les semaines, de 18h à 19h, on va vous faire un petit voyage ludique. Et cette fois-ci, nous allons nous concentrer un peu sur le jeu vidéo.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé.
Et notamment aussi à propos des événements caritatifs qui peuvent se passer autour du jeu vidéo.
Ça peut servir à faire du bien.
Et ça peut rapporter beaucoup pour certaines associations. Donc ça vaut le coup de faire un peu de promo.
La bonne excuse pour les gamers.
Voilà. C'est bon pour la santé, hein, c'est ce que tu disais.
Pour la santé des autres.
Voilà. Donc, si vous allez sur notre Facebook Heureusement en France, on a plein de publications assez sympas et sur lequel vous pourrez retrouver notamment nos podcasts et aussi tous les liens utiles de l'émission. Donc n'hésitez pas, mais Heureusement
en France. On n'a pas toujours le temps de noter toutes les bêtises qu'on dit. Des fois dans les bêtises, il y a des trucs intéressants. Et on oublie, j'ai oublié de noter le nom du site et voilà.
Voilà,
on repasse le podcast.
Pour combler la bêtise humaine, nous avons l'intelligence artificielle qui vous prend... avec Facebook. Et on parlera aussi de news insolites et on a quelques albums découverts qui sont dans le carton. On en piochera peut-être un au hasard si on a le temps.
Du jour.
Et je vous propose tout de suite de commencer, puisqu'il y a eu une annonce qui s'est faite assez récemment, il y a à peine 4 jours. C'est Rockstar qui a décidé de lancer son propre launcher. Alors, qu'est-ce qu'un launcher? C'est plus ou moins un portail sur lequel vous pourrez retrouver plusieurs applications. Alors, Rockstar, on fait bien sûr...
Une espèce de market, quoi, c'est ça.
Voilà, on parle bien sûr de jeux vidéo. Donc, eux vont proposer plusieurs jeux vidéo. Alors, sachant que Rockstar, c'est GTA, donc Grand Theft Auto, et c'est aussi plusieurs autres jeux, hein, et qui vont être proposés comme ça sur un portail qui permettront aux personnes d'installer rapidement leur application.
Dans l'ancien temps, quand on avait un jeu, déjà on allait en magasin à l'acheter et on repartait avec une vraie boîte.
C'est ça.
Dedans il y avait des disquettes si c'est très ancien, voire un CD, voire des DVD. On revenait puis on mettait la galette dans le... On l'installait et on avait la boîte physique et on jouait tout seul dans son coin en général. Et si on avait la chance d'avoir internet, eh ben, on pouvait se connecter, etc. Et puis maintenant, avec... je suis étonné que Rockstar lance ça. J'étais sûr qu'il y avait déjà un launcher avant. Le plus connu, c'est le Steampunk. Le Steam, je pense, où tu installes Steam et tu n'as pas besoin d'installer ou de réinstaller tes jeux et de retrouver les boîtes, etc. Tout est centralisé dans un logiciel, un petit peu comme un logiciel qui te permettrait de retrouver ta bibliothèque de musique.
Et c'est ce qu'on appelle la
dématérialisation des jeux. Tu n'as plus de boîte.
On se reviendrait plus tard.
Les nostalgiques, des fois on peut commander les boîtes quand même, c'est les versions spéciales. Et tu as, comme la musique, tu as tous tes jeux au même endroit. Et si jamais tu réinstalles un nouveau PC, etc., tu n'as pas besoin de rechercher toutes tes boîtes, de déménager avec tes cartons de boîtes de jeux. Tu réinstalles le launcher, tu te connectes avec ton compte. Et tu choisis, celui-là, je le réinstalle, et ça fait les mises à jour automatiquement. Tu es tenu à compte, c'est intéressant, parce que tu es tenu au courant des nouveautés, des mises à jour. Il y a des forums de discussion, tout est centralisé au même endroit pour tous tes jeux, c'est super pratique. Alors, le plus connu, c'est Steam. Il existe aussi, l'un des plus connus, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec World of Warcraft, c'est Battle.net.
Blizzard
à son propre. Tu retrouves donc tous les jeux de Blizzard, c'est-à-dire World of Warcraft, StarCraft, les Diablo, Heroes of the Storm, Hearthstone, etc. C'est centralisé. Alors, le défaut de ce type de lancement, c'est que, c'est un côté pratique, mais le défaut, c'est que tu peux plus forcément installer le jeu tout seul. Si tu ne joues qu'à World of Warcraft ou qu'à un seul des GTA ou à un seul jeu de chez Epic Games, etc., ou un jeu de Steam, tu ne peux pas forcément l'installer tout seul. Il faut quand même installer le launcher.
C'est ça. Il y a certains launchers qui sont connus juste parce qu'ils ont eu des jeux phares. Hein. On peut parler d'Origin ou de Battle.net, par exemple.
Chaque grosse boîte, que ce soit Electronic Arts, etc., même tous les Gameforge, etc., ils ont leur propre launcher. C'est un truc qui est devenu la mode. C'est pratique pour les joueurs, c'est aussi pratique pour les sociétés parce que ça permet de fidéliser un peu les joueurs. Ils savent et ils ont des statistiques. Ça permet de savoir tiens, leur joueur, à quoi ils sont en train de jouer en ce moment, combien de temps ils y jouent, avec qui ils jouent, est-ce qu'ils dépensent de l'argent de temps en temps, parce que bien sûr, chaque launcher a sa propre monnaie. Si tu veux acheter des petits jeux, des petits bonus dans... c'est quoi le jeu de Blizzard auquel tu joues, toi? Overwatch, c'est ça. Overwatch,
si je vois... Comment ça balance?
Te vois y jouer. Ah bah, hey, quand je suis connecté à mon battle.net, je vois tous mes amis qui sont connectés. Oui, on est amis aussi dans la vraie vie. Il est connecté et je vois... Ah, il est en train de jouer Overwatch. Il est en pleine partie. Mais tu vois aussi à quoi je suis en train de jouer. C'est ça qui est amusant. Tu peux rejoindre. C'est aussi un moyen de... Effectivement, pour les amis ou les jeux avec... Tu rencontres quelqu'un avec qui tu joues régulièrement dans le jeu, bah tu l'as joué à ta liste d'amis et tu peux les retrouver. C'est assez pratique.
Puis quand il joue à un autre jeu, tu dis mais ça, c'est peut-être bien ce jeu.
Ouais, et si j'allais l'acheter aussi,
voilà,
ou alors tu lui demandes de te l'offrir, parce que aussi tu peux, quand tu achètes un jeu sur Steam et les autres, on te demande est-ce que c'est pour vous ou est-ce que vous voulez en faire un cadeau, et tu peux l'acheter et pour un ami.
Effectivement, et alors quand tu es tout seul à un jeu, tu offres des jeux aux autres en espérant qu'ils te rejoignent. Ça me fait penser à
ça
des...
arrive souvent avec les jeux multi qui sont vraiment
les jeux
prévus
survival
pour du multi.
Zombies en bêta où t'as personne qui veut jouer avec toi.
Ouais, ils te proposent de l'acheter à l'unité et la ligne d'en dessous c'est vous pouvez l'acheter pour 4 exemplaires directement pour créer ton groupe multi tout de suite.
Alors il y a deux types de launchers. Il y aura les launchers multi, multi-jeux, multi-producteurs, etc.
Oui, ça, c'est pratique.
Tel
que
le Microsoft Store, par exemple, ou tu disais Steam. Donc Microsoft, c'est le Xbox Live.
Xbox Live, c'est ça.
Effectivement, qui est aussi disponible sur PC. Et d'ailleurs, vous pouvez tester, je pense, le Xbox Live pendant 15 jours gratuitement, ce qui vous permet de jouer à certains jeux. Et ça me fait penser, lorsque Sea of Thieves était sorti, c'était un jeu de pirate. Tout le monde s'est précipité sur le Microsoft, le Xbox Live.
Ça fait venir du monde.
En profitant des 15 jours gratuits, tout le monde s'est désabonné après. Donc le jeu a connu une expansion extraordinaire, parce que le jeu était à 70€, je pense.
Ouais, c'est horrible.
Ce qui est extrêmement cher. Et Steam, eux, sont assez forts parce qu'ils proposent quasiment tous les jeux. Il y a très peu de jeux qui ne seront pas disponibles sur Steam. Les seuls jeux qui ne sont pas disponibles, c'est justement les jeux qui ont déjà leur propre launcher, tel que Battle.net et maintenant Rockstar. Donc, ça ne serait pas étonnant que Rockstar retire tous ces jeux.
Tu as aussi certains indépendants. Mais bon.
Parce qu'effectivement, l'un des défauts, alors il y a plusieurs défauts, plusieurs avantages et plusieurs défauts à ce moment-là. Alors l'un des avantages, c'est que c'est plus facile pour retrouver tes jeux, etc. Le défaut, c'est quand, comme moi, tu joues à un jeu chez Blizzard, un jeu chez Epic Games, un jeu chez Rockstar, un jeu chez Steam, un jeu chez les autres, tu dois installer tous les launchers. Et c'est pas évident de t'y retrouver. Alors ce jeu-là, c'est dans quoi déjà? Alors voyez, tu peux faire des raccourcis, d'accord. Il existe des launchers multiplateformes, qu'on l'expliquait, des logiciels gratuits qui recensent tous tes comptes. Tu lances juste le logiciel, il te dit, il t'affiche tous tes jeux. C'est assez pratique.
C'est pas mal ça.
Il y en a plusieurs. Je vais pas donner d'exemple. Enfin, je vais pas donner citer de nom là, parce que je les ai pas testés mais personnellement, mais ça se retrouve assez facilement. Mais effectivement, tu parlais de Rockstar, qui est le petit nouveau façon de parler, c'est un petit peu dire. Alors d'ailleurs, un des avantages d'en parler, c'est que tu as de temps en temps des jeux gratuits et des jeux moins chers. Tu bénéficies des promos sur Steam, tu as les soldes, tu as des promos toute l'année, j'ai l'impression. Et le problème, c'est que tu dis, hey, tu as un pack de jeux complet. Par exemple, tu as tous les jeux Rockstar, tu peux tous les acheter pour 50-70€. Et tu as, pour une somme à peu près modique, pour le prix d'un jeu pratiquement, tu peux avoir tous les anciens jeux. Et puis les musiques, des wallpapers, des fonds d'écran, t'as plein de petits bonus pour pas cher. Le problème, c'est que tu regardes ta collection Steam et tu peux avoir 100, 200, 300 jeux. Et à combien de jeux t'as joué? 2, 3, et encore. Je sais, j'ai encore des petits jeux que j'avais achetés dans des packs comme ça et que j'ai jamais pu tester. Et l'un des défauts, c'est que donc tu te retrouves avec des tonnes de jeux et tu sais plus trop où t'en es. Et t'as plein de launchers à lancer. Et l'un des défauts, c'est que quand tu avais des boîtes de jeux, tu pouvais décider de les garder, de les collectionner, mais tu pouvais aussi décider de les donner à un autre joueur ou de les revendre dans une braderie. De temps en temps, tu fais les braderies, les brocantes, et tu vois des boîtes de jeux, de vieux jeux PC.
Sauf que chaque société qui a créé ces portails d'applications ont spécifié dans les termes...
Dans les conditions générales d'utilisation.
Voilà, le truc que vous avez coché parce que vous étiez pressé de jouer à votre jeu. C'est spécifié que vous n'avez pas droit de revendre. Exactement. Une licence qui a été dématérialisée.
C'est un petit peu compliqué, oui, effectivement.
Alors que le jeu, c'est vrai que si vous allez dans une braderie, vous pouvez racheter des vieux CD, mais une fois que c'est dématérialisé, c'est lié à votre compte, c'est lié à votre adresse email, c'est lié à votre compte bancaire.
Ce que tu achètes, c'est comme quand tu t'abonnes à un jeu en ligne, comme World of Warcraft et compagnie, tu ne possèdes pas vraiment le jeu. Tu possèdes ce que tu as acheté, c'est le support. Dans ta boîte, tu as le manuel, tu peux avoir un petit t-shirt, des posters, peut-être la musique du jeu, etc. Ça, tu les possèdes, c'est à toi. Mais tu achètes le droit de jouer au jeu. Le jeu lui-même appartient toujours à la société. C'est un petit peu compliqué. Et donc, tu vois des gens qui revendent, par exemple, qui ont joué à World of Warcraft pendant des années, puis ils en ont marre, ils disent je vais revendre mon compte. Normalement, tu n'as pas le droit de faire. Alors, ils ne vont pas t'envoyer la police. Mmh. Parce que la nouvelle personne à qui tu le vends, il va peut-être payer son abonnement. Donc, ils s'y retrouvent un petit peu quand même. Mais ça les embête. Donc, théoriquement, tu ne possèdes même pas le jeu. Tu possèdes juste le droit d'y jouer.
Ce qui fait que l'UFC, donc.
L'Association de défense des consommateurs.
Ont décidé de porter plainte, alors notamment contre Valve.
Ça fait très longtemps qu'il y a des gens qui râlent, qui disent je veux avoir le droit de revendre mes jeux auprès de Steam, etc.
Donc après 3 ans de procédure, ils ont commencé à réussir à gagner certains procès.
À faire s'écrouler un petit peu le mur.
Donc il n'est pas dit que suite à cette décision, Steam propose une revente des produits, ce qui me semblerait quand même assez surprenante, mine de rien.
Ça va être terrible. On va voir des joueurs qui ont des milliers de jeux dans leur bibliothèque de jeux Steam et qui vont les revendre, qui vont les brader, etc. à d'autres gens qui vont les acheter, qui vont pas y jouer non plus. Ça va être amusant. Il y a peut-être moyen de faire des bonnes affaires.
Donc voilà,
ça va être un choc dans l'univers de Steam. Et pour revenir, on parlait des jeux. Donc le Rockstar, vous allez sur le site de Rockstar Games, ça doit être rockstargames.com, vous téléchargez le launcher. Quand je dis télécharger, alors moi je suis chez Windows, oui je l'avoue, mais j'ai vérifié la plupart des launchers, que ce soit Battle.net, Epic Game Launcher, le launcher de entre autres de Fortnite, etc. Le Rockstar Game, qu'est-ce que j'ai oublié, Steam, sont jouables, installables et utilisables sous Windows, mais également la plupart du temps sous Macintosh. Pour les gens qui nous écoutent.
Il y a des gens qui jouent sur Mac.
Je ne sais pas, mais ils doivent pas. De toute façon, ils écoutent pas Radio Campus. Et sur Linux, la plupart du temps, même si des fois, il faut aller chercher un peu sur les forums et faire des petits bricolages, rajouter certaines options. Ça, je dis ça pour les gens qui écoutent l'émission d'après, l'écho des Gnous. Et sous Linux, on peut, ils en avaient parlé dans une de leurs missions d'avant, on peut jouer, installer Steam et compagnie, tous ces logiciels sous Linux, la plupart du temps. Et après, tout dépend de la puissance de votre machine.
Après, vous gérez vos bugs vous-même.
Ça, rien que ça, c'est pratique, quoi. Alors, j'ai pas regardé si ça marchait aussi sur, genre, c'était un téléphone mobile ou une tablette. Et si tu peux jouer au même jeu, en général non, vaut mieux jouer aux versions,
avec un Amiga OS
qui ont été adoptées.
Pourquoi pas.
Mais toi, c'est possible. Et donc j'ai installé le Rockstar Game Launcher, je vais y arriver, et hop, belle surprise,
mystère.
On t'offre, non mais à tous ceux qui téléchargent là, pendant un temps limité, je sais pas pour combien de temps encore, qui téléchargent et si vous avez déjà un compte, alors ça s'appelle le Rockstar Social Club, le compte de chez Rockstar, votre compte de jeu, si vous créez votre compte et vous téléchargez le Rockstar, vous avez GTA San Andreas gratos offert. Le jeu qui date de 2005. Alors, et je l'avais jamais joué, donc je l'ai installé. Et c'est amusant parce que j'ai installé le Rockstar Launcher, Games Launcher, pas évident à dire. Et il a scanné mon ordinateur et il a vu que j'avais, parce que moi j'avais acheté pas cher sur Steam, GTA 3, Vice Liberty, c'est ça ?
Vice
City, pardon. Et il me les a détectés. Et donc, je peux les lancer soit de mon Rockstar Game Launcher, ouais, j'ai réussi à le dire, soit de Steam.
Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que ce Social Club de Rockstar existe depuis la version de GTA V.
Exact. Oh, ça existait.
Qui est la version...
Non, ça existait depuis la version 4.
En tout cas, elle était...
Puisque tu pouvais te connecter au jeu et tu y gardais tes scores, tous tes exploits, etc. Puis
oui.
Tous les autres joueurs pouvaient les voir.
Mais pour jouer à GTA V, qui serait le mode online, on va peut-être détailler les GTA, mais tu étais forcé d'acheter le jeu. Alors, tu voulais acheter sur Steam, mais après, il fallait créer toi-même ton compte sur Rockstar. Ce qui veut dire que la majorité des gens qui ont joué à GTA V online auront déjà leur compte créé pour lancer ce launcher, par exemple.
Ils auront quand même, s'ils ne l'ont pas déjà en général. Les fans des jeux Rockstar, on les a pratiquement tous. Donc GTA San Andreas, offert.
Alors, rentrons dans le sujet. Pourquoi est-ce qu'on en parle et pourquoi on pense que ça risque de cartonner, malgré que pour l'instant on parle que de jeux qui sont assez anciens, qui vont être mis sur la plateforme? C'est parce qu'il y a un autre jeu qui est sorti uniquement sur console qui s'appelle Red Redemption.
Red Dead Redemption. Et le 2 est sorti déjà, et c'est un jeu qui cartonne absolument.
Qui cartonne, qui est uniquement sur console, donc c'est un peu une ambiance western. Vous êtes.
C'est une espèce de GTA. Je vais me faire insulter, mais c'est, imaginez GTA à l'époque western. Quoi.
Et ce jeu est prévu pour arriver sur PC très prochainement. Ouais. Alors c'est bien sûr, c'est Rockstar qui est derrière. Mmh. Donc, est-ce que ce launcher ne sera pas justement promotionné par le fait que Red Dead Redemption 2 sera disponible sur PC et disponible dans ce launcher? Et c'est là, à mon avis, qu'ils vont créer un gros coup de pub, ce que Xbox Live avait fait avec Sea of Thieves, par exemple.
En offrant le 1, par exemple.
Alors GTA 1, justement, on en parlait hors émission. Alors faisons un petit overview de tous ces Grand Theft Auto. Le premier, c'est vraiment le jeu qui a commencé à bousculer un peu le jeu vidéo.
C'était en deux dimensions. Waouh.
On repart en 2D, vu de dessus. Et c'est l'un des premiers jeux qui vous permettait vraiment de jouer un peu le méchant. Vous deviez réaliser des missions qui étaient soit délivrées de la drogue, soit piéger des camions. Alors c'est vrai que ça devient très difficile de faire un jeu comme ça maintenant.
Il est sorti en 97, ça nous fait 22 ans si j'ai compté, c'est pas mal. Et je me rappelle qu'on y avait joué. Il y avait le 1 et le 2. Le 1 et le 2 se sont suivis assez rapidement. Et graphiquement, il n'y avait pas beaucoup de... Mais c'était vraiment... Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait... Il y a beaucoup de gens comme moi ont découvert la série des GTA avec le 3, qui était le premier en 3D. Et ils sont venus tester. Ils se sont aperçus qu'il y avait eu des GTA avant en 2D. Ils ont retesté. Et ils sont aperçus avec plaisir que tout était déjà dans le premier. À part peut-être les musiques et encore tout. Toute l'histoire,
Dom, je pense pas qu'on a découvert GTA au niveau du 3. Je pense que nous, on l'a eu dès le
début. On connaissait déjà, mais on avait déjà pas vraiment
bien exploité
testé,
le 1. Voilà. Moi, je me souviens beaucoup du 2 également, j'y jouais énormément.
Et il avait fait GTA London, qui était la même chose, mais qui se passait à Londres.
Voilà, qui était un peu l'extension de la première version, toujours en 2D.
Je m'en souviens parce qu'on avait un ami qui était à Londres à ce moment-là, puis quand il jouait avec nous, il nous disait « tu reconnais là ?» Est-ce que tu reconnais ?» Il nous dit « Ah ouais, cette rue-là existe vraiment et tout, c'était sympa. »
Donc tu avais possibilité, avec des versions un peu modulées, un peu piratées, de jouer en réseau.
Ah oui. Bah ça, c'est ce genre de jeu, quand tu jouais tout seul dans ton coin, où t'étais à plusieurs, on était les uns à côté des autres sur chacun son ordinateur à faire à jouer. Et qu'est-ce que ça serait bien si on pouvait jouer les uns contre les autres? Ah, qu'est-ce que ça serait bien? Puis tout, on n'était pas les seuls à dire ça. Puis il y a des gens dans leur coin qui développaient des petits serveurs, qui essayaient de bidouiller un peu le jeu pour essayer de jouer l'un contre l'autre.
Ça marchait pas bien, mais c'était rigolo. Quand ça marchait au moins 10 secondes, t'étais content de tirer à roquette sur quelqu'un qui était en bagnole. Et vraiment, ce qui a commencé à perturber le jeu vidéo et à plus ou moins révolutionner une certaine partie de gameplay, c'est lorsque GTA 3 est sorti. Puisque c'est un des premiers jeux qui se basait bien sûr sur cet esprit de GTA 1, mais en version 3D cette fois-ci.
C'était encore plus réaliste. Enfin, quand on revoit les graphismes de l'époque. Parce que autant dans les GTA, vu de dessus, t'as l'impression de voir un petit shoot'em up, un jeu classique, voilà, tu es des mecs, il y a du rouge qui s'affiche parce que c'est le son du GTA. Mais quand tu commences à y jouer en 3D, que tu diriges le personnage et que tu vas délibérément vers un personnage pour le tabasser dans la rue à coup de batte de baseball alors qu'il a rien fait, il y a commencé à avoir des polémiques tout de suite, quoi. Parce que tu jouais un pur méchant dont le but c'était de faire le mal pour réussir, quoi. Et il y a eu les polémiques tout de suite.
C'est ça, et je pense que GTA 3 était tout d'abord sorti pour les consoles.
C'est adapté pour, ouais.
Et ensuite a été adapté sur PC, donc ça permettait d'offrir un support pour la PS2 à l'époque, hein, notamment. Et c'est vrai que ça a été découvert par beaucoup de joueurs consoles, et du coup ça a été vraiment une révélation pour les gens. Ils se sont dit, mais ce style de jeu existe, alors que nous on le connaissait depuis plusieurs années sur PC, hein, puisque GTA 1, GTA 2. Est sorti uniquement sur PC. Ils ont tenté certaines adaptations en Game Boy Advance, en Game Boy Colors. Je vous invite à aller sur Internet, puisqu'on peut retrouver certains tests des développeurs lorsqu'ils ont essayé de faire ça. Et le résultat est pitoyable, du coup c'est jamais sorti. Et au moment où Rockstar sort ce jeu énorme que sera GTA 3, et d'ailleurs il y a des speedruns qui sont disponibles,
on
reviendra dessus juste après, on avait quand même un graphisme qui était assez sympathique pour l'époque. Et ils avaient rajouté une ambiance puisqu'ils avaient créé des chaînes de radio. Exactement. Je sais pas si tu te souviens.
Dès que tu volais une voiture, un véhicule, tu te procurais un véhicule, que ça soit un simple taxi ou une voiture de police ou une volant, tu pouvais changer la radio et tu avais des chaînes de radio pré-réglées dedans dans le jeu, et avec plein de musiques qui étaient très sympas, en plus des fois des musiques originales, des fois des musiques reprises, des standards, etc. C'était très bien, avec des discussions, enfin ça rend, t'as l'impression d'être dans la radio, et tu pouvais aussi mettre tes propres musiques, ça c'était pratique, on le faisait tous.
Alors, un petit exemple de radio. Et tu roulais pendant des heures avec...
Tu pouvais laisser juste le jeu pour écouter les radios.
C'est pas mal.
Donc GTA 3 en 2001. Alors, à savoir, pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire de Rockstar, c'est au moment où Rockstar est plus ou moins racheté avec d'autres compagnies. Et il y a eu cette grosse rumeur on s'est aperçu après que c'était vrai, de faire à ce moment-là, voilà, sortie de GTA 3, un mode online.
Un mode multijoueur, que tout le monde espérait.
Et oui, parce que c'est vrai que c'est sympa de jouer tout seul. Hein. Alors maintenant, on le sait, le mode online est sorti en 2017, hein, si je me trompe. Mais ça, déjà à l'époque, Rockstar avait envie de créer un mode multijoueur.
On avait testé, nous, des petits serveurs. On avait réussi vaguement à se connecter au mode, mais ça marchait pas du tout. En gros, dès qu'on se croisait dans la rue, ça crachait. Mais vraiment.
Donc mais bon. Ce projet allait s'appeler GTA Online Crime World.
Crime World.
Et ça a été assez vite abandonné pour la simple raison que, comme GTA 3 était majoritairement basé sur console, la PS2 à l'époque, au niveau des capacités réseau, n'était pas assez puissante pour enfin, les ressources n'étaient pas là pour faire un jeu correct en multiplayer. Et si on regarde bien maintenant, c'est encore assez difficile avec les technologies actuelles. Hein. Si vous jouez à GTA 5 Online, vous verrez vite qu'on arrive à certaines limitations à des moments, hein, au niveau des latences, etc. Mais c'est fou qu'à l'époque, ils avaient déjà cette idée de construire ce GTA. Ensuite, on est arrivé à peut-être un des meilleurs GTA qui sera celui de Vice City.
C'est mon préféré aussi, je pense. Au niveau de l'ambiance et des musiques et de la ville, je pense que des scénarios, c'était vraiment un pur film.
C'est là où on a commencé à plus ou moins contrôler bien ce style de gameplay. Eux s'étaient habitués à la 3D. Et on avait une sorte d'années 80.
Il n'y avait pas un gros boost graphique par rapport au 3. Pour moi, c'était vraiment plus une ville un petit peu plus grande. Mais vraiment l'ambiance musicale et puis les personnages colorés, c'est le cas de le dire.
Et il y avait une histoire qui était hallucinante.
Moi, dans un film de gangster, quoi. Un pur film de gangster.
Avant que je m'étouffe, je te laisse enchaîner sur le suivant.
On peut passer de la musique si tu veux. Enfin, un des albums découvertes.
Alors, j'ai un album découvert, je te laisse faire l'annonce.
Oh. Un vieux groupe, on pensait qu'ils étaient tous morts. Morts dans leur vomi sans doute, ou la drogue, on ne sait pas. Les deux.
Ou les deux.
Ou les deux. Ils ont disparu en un clin d'œil. Ah, jeu de mots. Blink 182. Je ne savais même plus qu'ils existaient, ces gens-là.
Effectivement, ils ont décidé de...
Ils ont quoi, 50-60 ans ? Non, je plaisante.
Voilà, mais ils ont plus quoi payer la retraite.
Ah oui.
Alors, quoi faire ?
Ils ont tout claqué leur argent. Quoi faire quand on est un ex-musicien et qu'on n'a plus de succès ? On retente le coup. On va rechercher ses copains.
On va chercher ses copains. On essaie de refaire la même chose. Bienvenue dans Blink 182. Ouais, je vous laisse écouter ça, tellement c'est beau.
You sing is still about you. Save me from myself the way you used to. 'Cause I don't really like myself without you. Dying in the daytime, I think about the future that we left behind. I drank it all, but I can't shake you from my mind. Now every window's broken. I love you, but I hate you when you're with someone else. And I want you wrapped around me, but I don't trust myself. I drove by your house, but you don't live there anymore. 'Cause I don't really like myself without you. Every song I sing is still about. Song I sing is still about you. Save me from myself the way you used to. 'Cause I don't really like myself without you. I really wish I hated you right now. Won't you say something? Won't you say something?
Bah, c'est l'hiver d'Om. Et l'hiver, on boit de la soupe.
Putain, ça, on boit de la soupe bien chaude. Enfin, bien chaude, je sais pas.
Avec l'album... les vieux légumes qui traînaient dans le...
Ah, c'est tout frais, c'est sorti, bah, c'est sorti il y a 2-3 jours apparemment. Oh là là. Enfin, ça, mais t'as l'impression que c'est sorti il y a 20 ans. C'est terrible. L'album s'appelle Nine, mais parce que c'est le 8e.
Ah oui.
Enfin, il y a certains membres du groupe qui disent que c'est le 9e, je ne sais pas, il y a polémique.
En gros, il y a un album qui devait sortir, qui n'a jamais sorti.
C'est 8,5 comme dans Harry Potter, la fameuse porte 8 avec un numéro ennemi. Voilà, c'est l'album de trop.
Allez, en parlant
c'est
de...
tout ce que c'est l'album de trop. Il l'aurait appelé de trop.
Peut-être que le premier album était de trop aussi.
Tous les autres albums étaient de trop, je crois.
On va enchaîner, on parle de numéros, passons à GTA 4.
Ah oui.
Alors, est-ce que tu te souviens de celui-là qui est sorti en
Absolument.
2008
C'est bizarrement, c'est peut-être celui auquel j'ai le plus joué. Parce
avec
que
Nico.
Nico Bellic. Et tout, mais tous les personnages de ce GTA 4 étaient incroyables.
C'était vraiment le point fort, c'est qu'on avait une ambiance et on rencontrait des personnes qui étaient extrêmement particulières.
Visuellement, il y avait un boost par rapport aux autres, mais ça aurait pu être des graphismes tout pourris ou même en pixel 2D, en Minecraft, je ne sais pas, mais les personnages étaient tellement incroyables. Tous les personnages que Nico Bellic rencontrait, c'était fou, c'était la mafia russe. Il y avait, il faut jouer, c'est indescriptible. Les aventures, enfin le scénario elle-même, c'est l'aventure était classique, mais je prenais plaisir à refaire pour voir les cinématiques avec les personnages. C'est dans celui-là qu'il y avait un fumeur de ganja.
Oui, quand il rentrait dans ta voiture, tout d'un coup, t'avais de la fumée qui sortait.
Tu roulais en voiture avec lui et la voiture avançait dans un nuage de fumée. C'était incroyable. C'était des petits détails comme ça qui étaient super drôles. Et avec des acteurs qui doublaient les voix. Mais c'était fou, quoi.
Et c'est la première fois qu'on a eu un mode quasiment multiplayer inclus dans la version, même s'il n'était pas parfait et assez difficile à lancer. C'est aussi l'un des premiers GTA où ils avaient assez d'argent pour programmer un moteur graphique assez conséquent, ce qui rendait vraiment une version qui envoyait, quoi. Hein,
mais tu voyais vraiment très loin. Puis la ville était... Enfin, à chaque fois, la ville est de plus en plus grande, mais c'est pas le problème.
Jusqu'au jour où ils ont décidé de sortir le 5.
Ah, t'en as pas oublié au passage ?
Alors, j'ai fait. Alors, je vais te les faire. Hein.
Le San Andreas. Ça tombe bien parce que c'est celui qui fait les gratos avec le Rockstar Game Launcher.
Je te laisse passer.
Non, pas du
c'est
tout.
Vrai, parce que on a parlé de Vice City, qui était dans les années 80.
Tu as zappé le San Andreas.
San Andreas, effectivement. Où vous jouiez donc un...
un mec qui revenait. Alors je connais
ce scénario. Il sortait de prison, je pense. Hein.
C'est ça. Non, il avait fait de la prison. Il s'était un peu éloigné de sa ville et il était revenu pour l'enterrement de sa mère. Enfin, sa mère est assassinée. Il retrouve son frère et ses copains de gang.
Et là, on parle dans les années 1992.
Je le sais parce que comme j'installe le Rockstar Game Launcher, j'ai eu le jeu gratuit, je l'ai installé, j'ai testé le début, j'avais jamais joué à celui-là. Donc
tu pouvais faire du vélo.
Tu commençais à vélo en BMX. Et c'est vraiment l'ambiance de ces années-là, quoi, avec la musique qui va bien. C'est vraiment les années. Ouais, c'est ça, gang, le style Los Angeles, etc. Quoi.
Et lui aussi, assez. Assez sympathique. Généralement, ils ont réussi leur version et c'est ce que j'allais.
Toujours bien travaillé.
C'est là où je voulais en venir jusqu'à Grand Theft Auto V.
Alors pour revenir sur le GTA V, pendant San Andreas, il y avait une polémique à l'époque. Le fameux mode Hot Coffee. Alors ça, yes. Déjà que les GTA dans les ligues de famille n'étaient pas très bien reçus, pas très très bien vus.
Alors déjà dès le premier GTA, si on repart dès le début, lorsque vous écrasiez certaines personnes, vous gagniez des points.
Ouais, bon.
Ce qui peut sembler inconcevable maintenant de féliciter des gens lorsqu'ils font une tuerie en voiture. Hein. Surtout dans le contexte social
quand
actuel.
Quand t'as des conseillers du président qui vont dans les manifs pour tabasser des gens. Enfin bon, bref.
Mais avant, c'est, au lieu de la violence, c'était plus les scènes un peu de sexe qui étaient bloquées.
C'est ça.
Et c'est donc là qu'il y a eu une polémique.
Dans le GTA San Andreas, le physique de ton personnage changeait en fonction des exercices physiques. C'est-à-dire que si ton personnage, si tu allais dans une salle de sport, tu faisais beaucoup de sport, il devenait très musclé. Si tu allais dans un fast-food et que tu mangeais beaucoup, il devenait gros, etc. Puis si tu courais ou si tu faisais du vélo, il avait plus ou moins d'endurance. Et il y a des petits malins. Il y avait un mode dans le jeu, qui était installé, mais caché, mais pas activé, qui s'appelait Hot Coffee, je ne sais pas pourquoi. C'était une allusion. Et en fait, tu pouvais faire un exercice physique un petit peu spécial avec les représentantes de la gente féminine. Donc tu allais chercher une petite amie, tu revenais dans ta chambre et tu pratiquais un exercice physique. Voilà. Et c'était explicite à l'écran. Et le problème, c'est que le jeu était vendu pour les moins de
16 ans.
Or, si tu as le droit de faire un jeu où il y a des scènes de sexe, il n'y a pas de problème, mais à ce moment-là, il passe en moins de 18. Et là, la polémique a explosé, ça, on en a parlé partout, de ce fameux mode Hot Coffee qui était prévu dans le jeu. Il était disponible sur la version PC, mais il y a des petits malins qui ont réussi à l'activer quand même sur les versions consoles en bidouillant. Comme quoi,
alors pourquoi il y a une polémique? Tout simplement parce que lorsque la version console est sortie, il est passé en moins de 16 et ce mode n'était pas activé. Donc lorsqu'ils ont sorti la version PC, ils ont gardé le même rating qui était 16.
Ils n'ont pas supprimé le jeu. Le mode était présent mais pas activé et c'était très facile de l'activer.
Effectivement.
C'était le défaut. Au lieu de le supprimer complètement, de refaire un patch, mais non. Et donc on passe au 5. Vas-y, tu peux en parler parce que moi j'en parlerai jamais.
Renat, tu n'as pas testé non plus ?
Non, j'ai joué.
Ah bah t'étais là, je t'avais pas vu.
Ah non, mais moi les GTA, j'ai très peu pour moi. C'est pas des jeux qui m'ont inspiré beaucoup. J'ai joué au 1 et au 2 de mémoire avec la vue sur le dessus, je me suis éclaté dessus. Mais après, non, je suis resté sur les bons FPS de l'époque, avec les Wolfenstein et compagnie.
Alors GTA 5, il y a beaucoup de personnes qui diront que c'était un point fort et que moi j'ai trouvé un point faible. C'était que vous puissiez jouer 3 personnages. Donc vous commenciez avec un personnage et ensuite il y en a un autre selon la storyline qui rejoignait l'aventure et ensuite quelquefois vous aviez des actions à 3 où tu pouvais switcher de personnages. Pour moi ça c'est pas très
régulièrement dans les RPG console par exemple.
Pour moi ça c'est pas très esprit GTA.
Peut-être qu'ils essaient de toucher un autre public.
Voilà, et ça marchait, hein. Ils l'ont touché. Et aussi lorsqu'ils ont sorti GTA 5, c'est qu'ils ont sorti en même temps la version online.
Waouh.
Et cette version online, si moi je vous dis tu vas jouer à GTA 5 online, tu penses à te balader dans la rue et faire des quêtes en même temps que les autres font leurs quêtes et puis commencer à avoir une sorte d'interactivité comme ça. Genre, sauf que pas du tout.
Si t'as une mission qui te demande d'aller attaquer une banque, tu dis est-ce que quelqu'un d'autre doit s'y attaquer cette banque? On se met à plusieurs et puis on y va, j'imagine.
Voilà, mais lorsque tu attaques une banque, tu lances une instance où tu n'as plus de joueurs.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui peuvent venir t'embêter?
Pas du tout. Ce qui fait que ce mode online était en fait une grande ville, une sorte d'open world, où personne n'allait, puisqu'il n'y avait rien à faire, à part aller chercher la quête. Donc il n'y avait aucun avantage à avoir des interactions avec les joueurs. Alors ça, ils l'ont corrigé bien plus tard en faisant des guerres de gang, etc. Mais les premiers mois qui ont duré extrêmement longtemps...
Tu jouais avec tes potes, quoi, c'est tout.
Voilà, alors graphiquement encore, là, GTA était plus ou moins à la pointe des graphismes.
Donc forcément, ça, fallait changer de PC pratiquement pour jouer.
Oui, je pense. C'est comme là où je changeais de PC, moi, c'était sur les mafias. À chaque fois qu'un nouveau mafia sortait, je voulais avoir le nouveau PC.
Les mafias, hein.
Non, il n'y a pas de temps de
on est sur GTA, là.
Donc voilà, ça a quand même bien fonctionné. Hein. On y a tous joué. Enfin, je parle pour moi. Parce qu'on est plusieurs, on est plusieurs à l'intérieur. Donc, je pense que ça a eu son succès quand même.
Et est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent ?
Oui, malheureusement.
Oui, t'as beaucoup de serveurs roleplay sur GTA.
Ah, oui.
Et qui prennent encore les dernières extensions. Tu les as beaucoup, par exemple, sur les streamers.
Ah oui,
que ce soit
effectivement,
YouTubers.
J'ai vu quelques streamers.
Et c'est vraiment des roleplay. Par exemple, personne qui joue le rôle du commissaire de police ou du capitaine et qui se balade ils vont dans les boutiques. Il y a un joueur qui, son rôle, c'est de tenir un pub. Donc, il y a un autre joueur, c'est d'être serveur dans ce pub. Et il y a des dramas comme dans tous les RPG, les MMORPG, et ça tourne.
C'est vrai.
Ah oui, ça tourne très très bien. Et c'est comme pour le WoW classique, il y a la rocade, comme on appelle, pour y rentrer. Et voilà, si tu ne chopes pas la rocade à une telle heure, comme pour imaginer une autoroute qui fait le tour de Paris, et ben, si tu tapes la mauvaise heure, ben, tu vas avoir, tu es à 2h30 d'attente pour aller jouer sur ton roleplay de GTA.
Ça me surprend. Bah écoute, me donne envie d'aller
relancer
le jeu que j'ai acheté.
Et pourtant, je suis, comme je t'ai dit il n'y a pas longtemps, je ne suis pas du tout GTA, mais voir du roleplay sur GTA avec les possibilités que ce soft peut permettre aux joueurs, il peut faire de très très bons roleplays.
Bon à savoir. Alors, ce que je vous propose, c'est de... On a parlé tout à l'heure d'une personne qui a fait GTA en une heure.
Ouais.
Alors, c'était le Vice City, je pense. Hein.
Oui, ouais, ils ont tous fait... Ouais.
Et il a fait cet événement lors d'un événement caritatif où
transition magnifique. J'allais faire la transition avec les streamers, mais
voilà, streamer.
Qui est en cours actuellement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller voir. Donc, je vous préviens tout de suite.
C'est pas la même chose, en fait.
C'est pas encore la même chose.
En fait, faire un jeu avec le minimum de temps possible, c'est un speedrun. Alors que là, on va parler d'un événement qui est des streamers qui se regroupent pour avoir des dons et faire jouer, animer leur communauté et regrouper les communautés de plusieurs streamers pour un but de recevoir des dons et faire un événement caritatif.
Et c'est ce qui se passe en ce moment.
Ce week-end, ils ont commencé, alors ça s'appelle le Z-Event, on expliquera d'où vient ce nom bizarre. Ça a commencé vendredi et c'est toujours en cours. Ben, je ne sais pas, j'ai regardé hier à minuit, ils n'étaient pas trop fatigués, il y en a qui dormaient à moitié, mais ça va. C'est toujours en cours. Vous pouvez, alors, le site, c'est quoi ? C'est
Z-Event.
Donc Z-E-V-E-N-T.fr, tout simplement.
Si vous en avez... Si vous êtes devant votre ordinateur, restez avec nous au niveau du son et regardez ça.
L'ordinateur.
Voilà, pour regarder Z-Event.
Et sur le site Z-Event.fr, vous avez la page qui vous donne le nombre de streamers qui sont en cours en direct. Vous avez les liens sur la gauche de votre streamer préféré, hein, que ce soit un YouTuber ou un Twitcher. Je ne sais pas si ça le dit, mais sur la plateforme Twitch. Voilà, un streamer de la plateforme Twitch.
Donc là, actuellement, je suis en train de regarder, sur les 49 streamers connus, on va dire, qui se sont inscrits en tant que... c'est un petit peu comme des comédiens qui seraient allés à la télé, comme pour le Téléthon, quoi. Il y a des vedettes qui viennent, et voilà, donc c'est des volontaires.
C'est comme les enfoirés.
On n'est pas aussi bas que ça.
Donc là, sur les 49, il y en a 43 qui sont apparemment réveillés, enfin, qui sont en train de jouer, qui ont un stream, qui tournent. On les voit sur la gauche, je peux cliquer sur leur nom.
Et ça bascule sur la fenêtre Twitch.
On a surtout... Alors, cette année... ils sont pas chacun chez eux, ils sont tous réunis à Montpellier dans la même salle, donc ils sont une cinquantaine. Et donc ils peuvent se parler physiquement, ils font des fois des petites choses ensemble, ou des fois chacun de leur côté, ils ont chacun leur caméra, donc tu peux les suivre individuellement. Cette année, c'était au profit de l'Institut Pasteur. Et donc là, au bout de 50 heures pratiquement, ils ont réussi à récolter plus d'1 300 000 euros. Donc c'est pas mal comme exploit. Donc si vous allez sur le site de Damon, vous pouvez assister tout en nous écoutant au stream de QA, et surtout vous pouvez faire un don directement.
Z-Event.fr. On voit
que tout à l'heure j'ai regardé, il y avait 260 000 personnes qui étaient en train de regarder en live, et là on est à 350 000. Est-ce que c'est parce que c'est la fin de la journée, peut-être ?
Et qu'il y a beaucoup de streamers connectés actuellement.
Ouais, ils ont fini les repas chez papy mamie, maintenant ils sont enfin chez eux, ils peuvent enfin allumer le PC.
Je suis sûr qu'ils regardaient sur leur téléphone. Ils sont sur les téléphones à l'arrière de la voiture des parents en train de regarder. Il y en a un qui suit Squeezie, il y en a un autre qui suit Zerator. Alors, le fameux Zerator, c'est lui qui a donné son nom à l'événement. C'est un streamer qui sur PC. Et il a créé cet événement, une espèce de LAN de joueurs. Et, Et ce, d'où le nom, le Z-Event, c'est sa chaîne qui s'appelle comme ça, Zerator. Et c'est d'où le nom du Z-Event. Et puis maintenant, donc c'était lancé en 2016.
En fait, c'est une personne qui stream depuis très longtemps, qui a une énorme communauté, qui a envie de bouger, qui a envie de faire des choses. Il a créé, par exemple, alors si je dis pas de bêtises, c'est la Zenmania, où il fait un tournoi sur Trackmania. Il regroupe énormément d'équipes de streamers là-dessus.
Il stream très souvent, je l'ai déjà suivi, parce qu'il a fait des streams notamment sur WoW Classic, parce que c'est un gros joueur de WoW. Il a fait des streams sur la version bêta de WoW Classic, donc j'ai regardé ça. Puis en plus, c'est vrai que, comme tous ces streamers un peu populaires, c'est vrai qu'il a un ton particulier. Il a une voix très aiguë qui monte très très vite dans les aigus, donc des fois il est un peu énervant.
Il s'énerve facilement, mais il s'énerve énergiquement.
Il
a un caractère qui. Une façon d'être qui attire l'œil et qui, tu le regardes avec un petit sourire, mais tu sais pas pourquoi tu souris. Voilà, c'est un très très bon animateur. Et voilà.
Donc en 2016, quand il a créé, ça s'appelait Project Avengers, donc il avait réuni un tas de streamers. C'était au profit de l'ONG Save the Children, ils ont récupéré 170 000 euros. Ouais. En 2017,
pour une première édition, ce qui est pas mal.
Oui, puis c'était fait dans un limite chez lui, dans son garage, exactement. Dans sa maison, enfin, je dis ça comme ça, ou une maison qu'ils avaient louée, puis ils étaient pas beaucoup à streamer à ce moment-là.
En 2017, c'est pour la Croix-Rouge française, ils ont réuni près de 500 000 euros. Il a même un petit message de félicitations du président Macron. En 2018, c'était au profit de Médecins Sans Frontières. Donc cette fois, il y avait 38 streamers et ils ont réuni plus d'un million d'euros.
Ouais, ils ont dépassé pratiquement vers la fin du stream le million d'euros. Auxquels ils ont rajouté après les ventes de t-shirts, que comme là maintenant vous pouvez aussi acheter le t-shirt Z-Event pour une vingtaine d'euros. Si vous vous dites je fais un don mais j'ai rien en contrepartie, là vous pouvez acheter le t-shirt, vous avez le t-shirt en contrepartie si ça vous fait plaisir. Mais ça, ils ont dépassé le million d'euros, ils étaient à pratiquement 1 150 000 ou 1 200 000 en plus des t-shirts. Sans t-shirt, ils étaient à 1 094 000, je crois.
Et ils participent au jeu. J'ai regardé hier vers minuit à peu près pour voir si c'était encore vivant. Et puis en plus, non, ils se contentent pas de jouer en faisant des blagues, en faisant des choses. Ils expliquent à chaque. Ils parlent de l'association. Ils disent pourquoi c'est important de faire des dons, comment on peut défiscaliser, etc. Enfin, vraiment, ils sont pas juste là pour ça. Ils sont vraiment impliqués dans le faire toutes les 50. Quoi, c'est impressionnant.
Surtout que
il y a même des sociétés qui suivent parce qu'on le voit aujourd'hui. Enfin, sur la deuxième journée, il y a Riot Games, l'entreprise américaine qui gère League of Legends, a fait un don de plus de 20 000 euros. Donc ils sont vraiment suivis et c'est quelque chose d'important dans la communauté de gamers mondiale. Quoi.
Donc voilà, si vous voulez aider l'Institut Pasteur, c'est le moment d'aller vous connecter sur zevent.fr et regarder vos streamers préférés et éventuellement faire un don.
Si vous ne savez pas ce que c'est un streamer, c'est super drôle à voir. Ils ont vraiment tous
des gens qui jouent aux jeux vidéo alors que vous ne jouez pas.
Et vous les payez.
Vous regardez les gens jouer pour vous.
Et le plus rigolo, par exemple, c'est d'avoir le joueur du grenier qui est un YouTuber à la base qui fait pas mal de vidéos. Il fait quelques streams pour... on va dire changer de YouTube, et là il est au Z-Event, et donc de voir une personne qu'on a l'habitude en tant que YouTuber, donc il prend son temps chez lui à monter ses vidéos, et là de le voir en live faire ses conneries entre guillemets, ça permet de voir des gens d'une autre manière.
Alors moi je tiens à dire que c'est très très honorable, parce que faut savoir que les YouTubers souffrent un peu en ce moment suite aux changements et aux nouvelles lois françaises. Puisque pour 5 secondes de musique utilisée, la vidéo est décommercialisée, donc ils ne touchent plus d'argent.
C'est ça, les critères ont changé, et c'est un petit peu plus difficile de gagner leur vie. Eux, ils gagnent leur vie, oui, c'est un métier bizarre, mais c'est comme
ça. Eux ont commencé à monter des sociétés sur une sorte de fonctionnement qui était YouTube, et maintenant tout est remis en cause, ce qui fait que des personnes comme tu citais, le joueur du grenier, doivent maintenant faire appel à des annonceurs pour faire une pub au début de leur vidéo, mais eux-mêmes. Donc la vidéo, eux-mêmes font la publicité. Alors que tu as toujours la pub YouTube avant. Hein. Ça, c'est magnifique. Mais tous ces gens qui souffrent d'avoir un salaire...
On va pas les peindre non plus, je veux dire.
Non, je vais pas... Voilà, qui souffrent, qui empathisent des nouvelles lois.
On va dire les petits YouTubers, parce que oui, il y en a certains, on va pas les blâmer. Non.
Mais je trouve ça honorable, parce que... Là, on récolte 1 340 000 euros.
C'est pas juste des
euros.
Gens qui se mettent devant une caméra pour se montrer, pour faire parler d'eux.
Ces gens auraient très bien pu faire le même événement, non caritatif.
Absolument.
Je pense qu'ils auraient touché une certaine somme.
Pas forcément, non. Parce que en fait là ils sont sur la hype de l'année dernière, parce que l'année dernière ils ont eu la barre des 1 million passés, ça a été fort en émotion pour l'avoir suivi correctement. Là ce week-end j'ai pas été présent beaucoup, donc j'ai pas pu voir ce qui s'est vraiment passé, mais l'année dernière tu les voyais tous vraiment on voyait qu'ils approchaient du million, ils demandaient à leur communauté, ils avaient les larmes aux yeux, ils prenaient parti pour l'événement.
On est dans la dernière ligne droite, donc il reste quelques heures, je sais pas jusqu'à quelle heure ils vont streamer, peut-être minuit maximum
ou 19h, je pense qu'ils ont commencé vendredi 19h-20h,
ils sont sympas, ils attendent la fin de notre émission, ils sont gentils, voilà.
Merci bien.
Et c'est excellent parce que moi du coup j'ai un œil sur le PC à côté, puis je vois des dons qui passent, 10 euros, et on sait que la plupart des spectateurs de ces gens-là, ça peut être des gamins, etc., des gens qui n'ont pas forcément envie de mettre de l'argent, qui n'en ont pas beaucoup, et on voit que ça donne beaucoup, quoi. C'est vraiment ça.
Mais on ressent la jeunesse des événements caritatifs qu'il y avait à l'époque, on en reparlera peut-être tout à l'heure, du début de la GDQ, des speedrunners américains.
Ah bah, parlons-en
de la GDQ, parce que ça ne parle à personne.
Non, mais je dis là, où tu as des personnes qui disent, voilà, si vous arrivez à faire ça dans l'événement, par exemple un défi quelconque, telle société va vous donner 20 000 euros.
C'est ça, c'est des défis.
Voilà, des petits défis, et ça peut être un défi peinture, ça peut être un défi flûte, ou faire un jeu complètement
mais
lambda.
Mais c'est dans la GDQ où quelqu'un a fini le GTA Vice City
de cette année,
en
voilà.
Une heure.
Voilà.
Il y a d'autres jeux, hein, pour les fans de Sonic, il y aura aussi des challenges à effectuer. Super Mario Bros. 3. Ça vous rappelle des souvenirs, ça?
Tout plein.
Donc AGDQ, c'est Awesome Games
Done Quick.
Donc des super jeux, c'est à toute vitesse. Voilà. Alors il n'y a pas que forcément des super jeux, mais c'est une question de goût ça. Ouais. Et ça existe depuis 2010 pratiquement.
Dès le début, avec ça dure une semaine par contre, pas un week-end. Et pendant la semaine, chaque speedrunner, c'est le plus simple. Mm-hmm. Chaque speedrunner vient, et c'est pas multi-Twitch comme on a sur le Z-Event.
Il y a un seul qui passe.
Voilà, il y a une seule représentation.
C'est une espèce de. Oui, un petit peu comme les 24 heures du Mans, quoi. Les gens se relayent pour occuper l'antenne, on va dire. Je pense pas qu'il y ait des gens qui regardent en permanence pendant des jours et des jours, mais c'est pas
forcément.
Mais ce qui est intéressant, tu peux donner, quoi.
Voilà. Et là, il y a pas une personne qui vient et qui dit voilà, je vais jouer sur un jeu comme là, je vois le premier, c'est Sonic. Et il va dire voilà, je vais finir Sonic. En prenant le minimum d'anneaux possible et aussi finir le plus rapidement possible. Et s'il y arrive, il y a une société quelconque qui va donner X dollars, comme là on est aux États-Unis. Ou tout simplement pour dire voilà, je fais un challenge, je peux finir GTA Vice City en une heure, et ben je vais essayer de le finir en 58 minutes. C'est mon défi. Je vais y essayer. Et s'il y arrive, bah voilà, il a réussi, il a amusé entre guillemets la galerie. Et pendant ce temps-là, les gens disent bah, s'il est réussi, bah, moi, particulier, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je donne 5 dollars.
Exactement.
Et ça motive. Et
ça a eu du succès dès le début, parce que donc c'est depuis 2010-2011, c'est qu'on dit. Donc il y a le AGDQ, là, Awesome Games Done Quick. Par contre, depuis pratiquement tout le début, c'est un seul bénéficiaire, c'est la Fondation
pour le cancer. Ouais.
Et ils ont créé, sous le succès, la Summer Games Done Quick, donc une deuxième instance pendant le même, dès 2011. Qui, elle, par contre, au début a donné pour la recherche contre l'autisme, sur l'autisme. Et puis, depuis 2013, c'est Médecins Sans Frontières qui bénéficient de leurs dons. Et la dernière édition, 2019, donc c'était au mois de juin, ils ont récupéré 3 millions de dollars. C'est pas mal.
Et ça s'est terminé sur un perfect 100% sur Chrono Trigger.
Waouh.
Où apparemment l'homme a vraiment souffert puisqu'il devait aller aux toilettes, mais il voulait absolument finir le jeu.
C'est le défaut de certains grands jeux, hein, comme les Final Fantasy ou autres, ou certains jeux qui peuvent durer 6 heures voire 8 heures, parce que des fois il faut juste farmer ton équipe pour qu'elle ait juste le niveau d'expérience qu'il faut pour battre tel boss, et que tu peux pas faire ça, enfin pas autrement, tu peux pas lâcher le jeu, aller aux toilettes, revenir. Non, il faut que tu restes et que tu joues, quoi.
Voilà, en parlant de jeux de ce type, il y en a un qui est très fameux, c'est Desert Bus.
Alors d'ailleurs ça a donné alors Desert Bus, c'est un simulateur de bus. Vous conduisez un bus dans le désert, pas juste en pleine ville, parce qu'il y a des jeux allemands comme ça. Tu conduis le bus
c'est la route 66, mais avec rien autour.
Tu conduis un bus que tu ne vois même pas, de toute façon il doit être très moche, dans le désert, et il y a rien, il se passe rien. Il n'y a pas de but au jeu, en fait.
En fait, non. Tu relis deux villes, mais c'est deux villes où il n'y a rien entre la fin de la première ville et le début de l'autre.
Il n'y a même pas un cactus,
c'est du désert.
Rien, je crois. Ouais.
Donc vous allez entre Tuscone et Las Vegas en temps réel.
Donc, et ce jeu est tellement passionnant quand même, que ça a quand même donné lieu. Des gens qui trouvaient ça tellement drôle de se filmer, de streamer en train de jouer à ce jeu qui est sans intérêt. Et ils se sont dit, bah, tiens, on va mettre une caméra, puis il y a des gens qui vont regarder, puis on va leur demander de faire des dons. Pareil, il y a une offre caritative, ça a donné le désert de bus de l'espoir. C'est très fort.
Alors, quand on dit sans intérêt, c'est parce que la route est droite. Il n'y a pas de tournant.
Il n'y a aucun animal qui traverse ni rien.
Les développeurs ont dû se rendre à un moment compte que le jeu n'était pas forcément intéressant. Donc le bus dévie légèrement vers la droite au fur et à mesure qu'il avance.
Pour éviter que de tricher.
Est-ce donc en fait, le but du jeu
est juste d'appuyer sur gauche de temps en temps pour que le camion se réaligne. Mais je pense que vous avez bien 30 secondes avant que le camion parte sur le rebord. Donc il faut quand même appuyer sur gauche assez souvent. Et ces événements caritatifs vous proposent de relier un peu ce qui s'est passé sur cet event. C'est des personnes connues jouer au jeu pendant une heure. Et vont tous se relayer.
Oui, et le but, c'est de rouler pendant 3 jours non-stop pour finir le jeu. Donc effectivement, ceux qu'on a cités, Squeezie ou Gotaga, les gros streamers connus, sont venus jouer. Et ils ont réussi à récolter au profit des Petits Princes, la dernière. Mmh. Et ils ont récupéré 50 000 euros, donc c'est pas mal. Mmh.
Mais tu vois, ça permet aussi d'avoir des personnes qui ne sont pas forcément du milieu du jeu, et d'avoir par exemple... des chanteurs, chanteuses,
il y a pas besoin d'être un champion du jeu.
Voilà, non, mais et aussi ou des personnes qui sont
même
qui gravitent.
Gilbert Montagnier n'est pas venu jouer.
Dit tous les 5 secondes, il appuie sur gauche. Voilà, il sait pas pourquoi, mais il appuie sur gauche. Mais ça ou des personnes qui gravitent autour du jeu vidéo ou de l'univers geek, on va dire comme ça, et aussi mais de parler avec eux, de donner, ils ont une instance avec leur communauté ou la communauté de d'autres personnes et de pouvoir discuter, raconter ce qu'ils font, d'avoir une interaction avec des personnes en direct. Et là, pour une personne, ça n'a pas de prix.
Voilà, donc pour aider la recherche, n'hésitez pas donc à participer à tous ces événements caritatifs sur le jeu vidéo. Alors, il y en a plein.
On a parlé du Z-Event qui se termine aujourd'hui, on a parlé des autres, et il y en a un qui va bientôt arriver, donc c'est Renal l'a sélectionné pour le nom, mais j'avoue que ça c'est sympa.
C'est parce que ça rajoute aussi une autre tranche de joueurs.
Ça se passe à Bourg-la-Reine,
Bourg-la-Reine, et le nom c'est Bourg-la-Reine. 5e édition du marathon au profit de l'institution du cerveau et de la moelle épinière.
C'est des gens qui vont faire des runs, donc des runs c'est une partie de jeu.
Mais il y a aussi ce qu'on appelle les super players, qui ne sont pas des speedrunners, donc ils ne vont pas essayer de terminer le jeu le plus rapidement possible, ou d'une façon dédiée, qui sont en fait juste des super players, c'est ce qu'on appelle, c'est vulgairement un joueur qui va réussir excellemment bien le jeu.
Autrement dit, récupérer toutes les pièces dans le jeu.
Par exemple, si on fait un shoot... un jeu de vaisseau qui tire sur d'autres vaisseaux, il va aller jusqu'à la fin du jeu en mettant le high score à chaque fois.
Et sans se faire toucher une seule fois.
Mais c'est pas forcément de finir le jeu le plus rapidement possible, mais c'est de faire le meilleur score ou montrer que.
Il joue à Tetris en vend que des 4 lignes.
Par exemple.
Jamais. Ouais, c'est ça. Et donc, ça, c'est du 8 au 11 novembre 2019. Donc, on mettra le lien sur le Facebook et sur le site de l'émission. Et donc ça, cette année, c'est au profit de... Alors, est-ce qu'on peut retrouver...
Institut du cerveau et de la moelle épinière.
Voilà, merci. Ouais. Ah, c'est très utile pour les gamers, quoique. Ça dépend des gamers. J'en ai vu qu'il y aurait besoin de greffe.
Ouais. Mais c'est certifié. Jouer à un jeu vidéo 15-20 minutes par jour améliore le cerveau.
Donc là...
c'est vrai, en plus. Oui, c'est excellent.
Ça existe depuis 2015. Alors, la première année, ils ont réussi modestement à récupérer 1200 euros. En 2016, 3400 euros. Et l'année dernière, 2018, 26 500. Donc, ça vraiment augmente. Mmh.
Alors, si demain, on devait tester un jeu pour faire un événement caritatif, qu'est-ce que vous prenez?
Je sais pas. Peut-être un jeu sur un simulateur d'hôpital, etc., vu que c'est en rapport. Et qui serait en rapport, tu vois, pour l'Institut Pasteur, tu auras un simulateur d'Institut Pasteur. Ça pourrait être pas mal.
Alors, je prendrais Skyrim.
Là,
Si, comme ça, tu dis, si tu me donnes 200 euros pour faire un don, ok, si j'arrive à battre le dragon à poil avec juste mon bouclier.
Oh, c'est facile, ça, tout le monde le fait.
Non,
c'est trop facile.
Avec une flèche, mais lancée avec l'arc.
Avec une fourchette. Tu cours le dragon avec la flèche. Bien, c'est petit.
Il y a des gens qui ont fini de jouer avec une fourchette, s'il te plaît.
Alors, Dominique.
Ou une épée en bois.
On parle d'aider les associations qui sont pour la recherche, mais il faut savoir que dans la recherche, il n'y a pas toujours des bonnes choses. et notamment si on regarde au niveau des prix Nobel, ah, oui. On peut trouver quelques...
C'est vrai qu'on peut donner, grâce à tous ces événements dont on vient de citer, notre argent à des chercheurs qui cherchent vraiment et qui sont utiles.
Mais, et on en a trouvé pas mal.
Et depuis quelques années maintenant, depuis 91, il y a un institut qui s'est amusé à recenser toutes les recherches scientifiques à travers le monde et à trouver les plus débiles, les plus inutiles, les plus ignobles. Et donc, ils ont créé le prix Ig Nobel en référence au prix Nobel. Et donc, C'est le prix Ig Nobel. Et 2019, ils ont été décernés il y a une dizaine de jours. Alors, il y a 9 ou 10 candidats. Alors, il y a des candidats qui, par exemple, le prix Nobel Ig Nobel de physique revient à une équipe internationale de chercheurs, des Américains, des Australiens, etc., qui ont fait des recherches sur les animaux qui s'appellent les wombats. Les wombats, c'est une espèce de petit mammifère marsupiaux, c'est un petit rongeur. Et ils se sont aperçus qu'ils faisaient des crottes carrées. Et donc, ils ont dépensé je ne sais pas combien, une équipe internationale, pour la recherche, pour trouver pourquoi cet animal fait des crottes carrées. On se dit là, c'était nécessaire, quoi.
Ou en anatomie. Et là, il y a eu un prix Ig Nobel pour avoir mesuré l'asymétrie de la température du scrotum chez les facteurs nus ou habillés.
Donc, ils ont réuni des facteurs. Enfin, des facteurs. Ils ont mesuré la température nue et habillée du testicule gauche et du testicule droit pour mesurer les différentes températures. Voilà.
La psychologie, quand même, pas mal.
Vas-y.
La psychologie. Pour avoir découvert que tenir son stylo dans sa bouche provoque un sourire, ce qui rend plus heureux.
Pas mal.
Ouais.
Moi, je dis, j'ai envie de leur donner de l'argent, ces gens-là. Quoi.
Puis, pour avoir découvert que finalement, ce n'était pas le cas.
Voilà.
Fais une découverte d'homme. Fais un truc, et après tu dis, oh ben non, ça marche pas.
Moi, je pense qu'on peut décerner le prix ultime à Lin Jun Kong et Herbert Crépaz pour la biologie, sachant qu'ils ont découvert que des cafards magnétisés, morts, se comportaient différemment des cafards magnétisés vivants.
J'y aurais pas pensé.
Eh oui.
Tu donnes ton prix à ça? Non, moi je pense que le prix...
C'est lamentable.
Non, c'est Silvano Gallus, donc un Italien, qui a reçu le prix Nobel de médecine. Parce qu'il a étudié, il s'est aperçu que... il a beaucoup étudié les gens qui mangeaient des pizzas, il s'est aperçu que les personnes qui consomment régulièrement de la pizza présentent un risque moindre de développer un cancer. Mais il faut que ça soit une pizza qui vienne d'Italie et qu'elle soit consommée en Italie. Pas bête, les gars. Je pense que sa famille doit travailler dans la pizza.
Ouais, ou à l'office de tourisme, surtout.
Dans la mafia, on ne sait pas trop, mais on va pas trop s'attarder
c'est
là-dessus.
Pour le tourisme, Allez, je vous propose pour clôturer cette émission, donc n'hésitez pas, si vous voulez retrouver les liens de l'émission, d'aller sur le Facebook Heureusement en France, sur le site anotherpodcast.fr et sur Radio Campus, vous avez le choix de retrouver nos podcasts sur la tranche 18h-19h. Là, on va s'écouter en musique de fin, malheureusement, l'album découverte, puisque Blink-182 a fait une autre chanson sur ce nouvel album, qui s'appelle Nine, hein, le nouvel album.
Le 8e.
Qui s'appelle Happy Days. Alors, pour bien finir...
Un remix du générique de la série.
Moi, j'allais le dire.
J'espère, mais non. Et d'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao. Hey kid, don't quit your daydream yet. I know you feel locked down in the cold. Seems like you're lost and alone. Happy days, happy days, happy days. Once a vice, a lesson.
against the wall. Isn't the life that you wanted when you could never have it all?